Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort ? Aujourd'hui, un épisode spécial NBA. On va évoquer les plus belles finales NBA de l'histoire. Pour évoquer ce sujet, ce vaste sujet, avec moi aujourd'hui, Maxime Dupuis et Laurent Vergne, journaliste à Eurosport, et Alex de Trash Talk, site spécialisé dans la NBA. Salut messieurs.
Salut.
Vous avez tous les trois choisi de défendre les finales d'une année, d'une saison. Vous allez me dire rapidement, en quelques mots, avant qu'on commence et qu'on lance le sujet, quelle finale vous avez choisi de défendre. Avant ça, je voudrais dire que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Ça va de Deezer à Spotify, à Acast, à Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à venir nous écouter de plus en plus nombreux, à nous mettre des notes, à nous mettre des commentaires. Ça nous permet de nous améliorer et ça nous permet également de progresser dans les classements. Voilà, sans plus attendre, messieurs, on va laisser l'honneur à notre invité Alex de Trash Talk. Quelles sont les finales que tu as décidé de défendre ?
Les finales de 88 entre les Lakers et les Pistons. En une phrase, parce qu'il y a tout dedans.
Super, voilà. On a déjà.
Vraiment, j'avais la même.
Laurent, à toi.
Moi, j'ai choisi les finales 93 entre les Chicago Bulls et les Phoenix Suns parce que pour moi, c'était l'alliance parfaite du choix du cœur et de la raison.
Et Maxime ?
Eh ben moi, je suis allé un peu plus proche dans le temps. J'ai choisi les finales 2015 entre les Warriors et les Cavaliers, les premières finales entre les deux équipes. Pourquoi ? Ben parce que j'aime le sale.
Ça, c'est alléchant comme programme. Alex ? Tu nous as dit il y avait tout dans tes finales. Il y avait tout, ça veut dire quoi ? Il y avait un scénario de fou, il y avait de l'émotion. Qu'est-ce qui te plaît ? Je crois que c'est des finales qui se terminent au Game 7.
Tout à fait, c'est des finales qui se terminent au Game 7. Si on veut commencer par là, en termes de scénario, c'est assez intéressant de voir que ce sont des finales. Non seulement déjà quand tu as un Game 7, ça veut dire que c'était serré et que les équipes se sont bien tenues. Mais en plus, c'est un scénario de Game 7 assez peu classique finalement. On était encore sur le format en 2-3-2. Dans les finales de Laurent, ça va être pareil. En 93, on est encore sur du… C'est-à-dire l'équipe qui a le meilleur bilan reçoit deux fois, se déplace trois fois et va re-recevoir deux fois. Là, en l'occurrence, c'était les Lakers. Sauf que ce sont les Pistons qui prennent le premier match et qui mènent 1-0. Ensuite, les Lakers vont mener 2-1, donc en gagnant à Détroit. Et ce sont les Pistons qui vont regagner deux fois de suite. Ils vont gagner le fameux match 5 à 2-2. Et là, ils vont faire mentir les statistiques. Parce que souvent, quand tu gagnes le match 5 à 2-2, tu gagnes la série. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas la stat exacte en tête, mais j'avais fait un papier là-dessus une fois, 75% du temps, quoi. Tu vois, genre à 2-2, quand tu gagnes le match 5, 75% du temps, tu gagnes la série. Et puis après, on a un Game 6, un Game 7, pardon, quoi. Pardon. Genre, historiquement, c'est complètement dingue. Donc, tu as le scénar, tu as de la star à plus quoi savoir en faire, donc et des grosses rivalités. Si je ne dis pas de bêtises… Vous voyez la photo du bisou entre Isaiah Thomas et Magic Johnson ? La photo hyper iconique, là, le bisou. Ouais. C'est le game one de ces finales-là. C'est au game one de ces finales-là, ça donne toute l'ambiance, toute la starisation qu'il y a autour. On a les deux meilleurs meneurs du moment, ça c'est sûr. Et parmi, dans un top 5 all-time de meneurs, il y a moyen que tu mettes Magic et Isaiah Thomas, par exemple. Et puis ensuite, on a de la perf. De la perf pure, comme on aime au basket, quoi. On a… qu'est-ce que je fais ? Je balance tous mes arguments tout de suite là, ou je m'en garde un petit peu sous le coude, ou comment je fais là ?
C'est comme chez toi.
Tu fais comme chez toi.
On a par exemple la perf, le fameux ankle game de Isaiah Thomas au match 6 où il est blessé. Les Pistons vont perdre d'un point, mais l'autre il va envoyer un quatrième quart. Ceux qui n'ont pas vu ça, faut aller voir. C'est disponible sur YouTube. Franchement, c'est assez impressionnant de le voir boiter et de mettre à l'amende une défense en fait. C'est assez antinomique, quoi. Le gars boite, mais il met à l'amende une défense qu'est-ce qu'elle est, mais qui n'est pas si mauvaise.
Il faut voir sa cheville aussi.
Et sa cheville, franchement, c'est pas possible. Ah, c'est pas du chiqué. Hein.
Ouais.
Déjà, rien que l'action où il se la tord, tu vois bien qu'il. Enfin, voilà. Quoi, c'est... Ouais, mais non. Il fait pas semblant d'avoir mal. Donc voilà, et t'as un finish incroyable avec ce Game 7 de James Worthy complètement fou, avec également dans le Game 7 un scénario qu'on oublie souvent à la fin, où tu as les Lakers qui mènent de 4 points, mais Bill Laimbeer rentre un énorme 3 points incroyable qui ramène les Pistons à 1 point. Je limite le... C'est le forum d'Inglewood encore à l'époque, donc à Los Angeles. C'est une cathédrale à ce moment-là. Sauf là, t'as Magic sur la remise en jeu, il fait une passe incroyable, enfin bref. Tout est assez incroyable dans le truc. Le public envahit le terrain avant même que ça soit exactement tout à fait la fin du temps réglementaire. Enfin bref, c'est vraiment un... Oh, moi, c'est des finales, je me les suis maté plusieurs fois. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'adore là-dedans. On a Kareem Abdul-Jabbar qui a 40 ans. Hein. L'autre, il a encore le niveau pour jouer en finale NBA à 40 ans. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Et puis, c'est quand même pas rien comme rivalité. Quoi. Je pense que Lakers-Pistons... Il y a quand même Laimbeer face à Kareem Abdul-Jabbar. C'est quand même le début de la vraie domination des Bad Boys face à la fin du Showtime. L'année parce d'après,
c'est
d'ailleurs.
C'est le crépuscule des Lakers. C'est leur dernier titre.
C'est leur dernier titre. Et l'année d'après, les suites. Tout à fait, tu as raison, Laurent. L'année d'après, même les Pistons-Lakers, c'est la même finale, sauf que là, c'est un sweep. Hein.
Ouais.
Un sweep, c'est la dernière finale de Kareem Abdul-Jabbar. Il part sur un sweep et tout. Donc, c'est vraiment une opposition hyper intéressante à voir visuellement et historiquement aussi très fondatrice de beaucoup de choses. Je pense que les Pistons, ça leur a donné bien la haine pour faire le back-to-back derrière, par exemple, ce genre de défaite en finale.
Laurent Maxime, c'est des scénarios qui sont incroyables. Est-ce que vous, dans vos finales, il y a aussi ce genre de scénario de rebondissement, une équipe qui mène, l'autre qui revient, qui repasse devant qui veut commencer?
Non, pas à ce niveau-là. Non, moi, c'est pour d'autres raisons, pas à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'aime dans les finales d'Alex, c'est surtout l'opposition de style. Voilà. C'est ce que j'ai retrouvé en 2015. J'en parlerai un petit peu après. Il y a aussi ce côté où il y a deux idées du basket qui se confrontent. Et c'est ce qui fait, pour moi, la richesse vraiment et vous le disiez, c'est vraiment le moment, le tournant de la décennie, c'est-à-dire que le Showtime des Lakers est en train de se terminer. Et il y a cette période de 2-3 ans où les Pistons vont faire doubler plus cette finale, où on est dans un entre-deux avant que Jordan prenne la suite. Et c'est eux un peu les cocus de l'histoire, parce qu'on les a quasiment oubliés entre les Lakers et les Bulls. Pour le coup.
C'est vrai ce que tu dis, Maxime. On a oublié que les mecs, ils ont fermé les Celtics de Bird, ils ont fermé le Showtime de Magic et ils ont repoussé au maximum la domination de Jordan. Quoi. C'est pas rien, hein.
Et il y a un truc à propos de ces finales aussi qui est marrant, c'est que l'année d'avant, les Lakers avaient été sacrés en 87 aussi. Et c'est le fameux discours de Pat Riley quand il présente le trophée à la foule juste après la fin des finales 87. Et où Pat Riley dit « Je vous garantis que l'année prochaine, on sera à nouveau là et on ramènera à nouveau le titre. » Et je crois que les Lakers, même s'ils ont été beaucoup champions dans les années 80, c'est la seule fois où ils ont réussi à garder leur titre, si je ne dis pas de bêtises.
C'est le seul back-to-back, t'as raison.
Voilà. Ouais. Et Magic Johnson avait raconté qu'il avait complètement halluciné quand il avait entendu Pat Riley dire ça, et il s'était dit « Mais pourquoi il dit ça ?» Et il avait quand même expliqué que toute la saison suivante, ça leur avait mis une grosse pression parce qu'évidemment, cette petite phrase de Pat Riley, elle revenait très régulièrement et notamment pendant tous les playoffs. Et Magic a dit à plusieurs reprises que ces finales 88, pour cette raison-là, avaient été très spéciales pour lui et pas simples à gérer.
C'est des finales, comme on disait, c'est plusieurs grandes équipes qui les Lakers, tu parlais de Bird et des Celtics, ils sont dévalorisés ces Pistons à ce moment-là, ou c'est parce qu'ils sont avant Jordan et on parle que de Jordan derrière, tu les as quand même choisis comme ta plus belle finale, les plus belles finales de l'histoire, donc c'est-à-dire que il y avait quand même quelque chose qu'on n'a pas retrouvé avant ou qu'on n'a pas retrouvé après.
Le niveau de jeu déjà.
Ouais.
Ça joue très 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 bien. Les Bad Boys ont une image de bourrin qui mettent des coups de coude et qui gagnaient grâce à une défense violente, brutale, parfois hors limite. Il n'y avait pas que ça. Les Bad Boys, c'est une équipe avec un scoring réparti, avec cette année-là, c'est avant que Mark Guyer arrive, mais l'ailier, c'est Adrian Dantley. Ceux qui ont envie d'aller checker les stats d'Adrian Dantley, c'est un grand malade. Hein. Quand il pose le pied par terre le matin, il a déjà mis 20 points. C'est vraiment un scoreur très très sérieux. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur scoreur des Pistons sur ces finales-là en 88, à 21-22 points. Mais en fait, Isaiah Thomas met 20 points par match. Joe Dumars est un scoreur tout à fait capable. On oublie que Bill Laimbeer, c'était un des premiers vrais stretch five, comme on dit, c'est-à-dire un pivot, vrai pivot, pas très mobile, mais capable de shooter de loin. T'as Dennis Rodman, qui est à peine en NBA depuis quoi, 2-3 ans à cette époque-là, qui commence déjà à être très sérieux sur les missions défensives et tout. Bon, t'as les soldats, hein, t'as Rick Mahorn, John Saleh et tout. T'as Vinnie Johnson, le sixième homme. La triplette Vinnie Johnson, Joe Dumars, Isaiah Thomas, c'était à l'époque, à mon avis, en termes de rotation, la meilleure triplette d'arrière du moment, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils sont connus pour ça, les Bad Boys, mais ces finales-là le montrent bien, et tous ceux qui veulent aller regarder le verront par eux-mêmes. Ils avaient les moyens de tenir droit dans les yeux face aux Lakers du Showtime, aussi au niveau du jeu offensif, si tu veux. C'est peut-être un peu moins beau, mais c'est du vrai jeu collectif où le ballon est partagé, où celui qui doit shooter, shoot et tout. Donc, je trouve qu'elles sont très intéressantes aussi dans ce sens-là, dans le côté performance, c'est-à-dire qu'on a vraiment on a une bataille de meneurs incroyable, mais on a aussi des batailles incroyables sur les ailes. J'ai parlé de la perf de James Worthy, mais en face de lui, il fallait qu'il défende de l'autre côté sur, par exemple, Adrian Dantla, j'en ai parlé, ou sur des gars qui étaient aussi sérieux. Et donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, pour répondre à ta question. Oui, on sous-cote les Bad Boys dans ce genre de cas. C'est un peu mon cheval de bataille numéro un. J'en parle souvent. Mais le truc, c'est ça, quoi. C'est que on oublie qu'ils jouaient bien au basket. Et dans ces finales-là, ils sont beaucoup moins vénères et violents qu'ils l'ont été avec les Celtics ou avec les Bulls. On est beaucoup moins dans une confrontation de conférence Est où vraiment ça peut pas se piffrer et vraiment ça se joue déjà 4 ou 5 fois par an en régulière. Donc il y a vraiment des comptes à régler. On est plus dans un truc où ça essaye de faire jeu égal, et en fait ils font jeu égal avec le Showtime, en fait, clairement.
Alors, voilà. Je viens juste de vérifier parce que j'avais un petit doute, mais non seulement le back-to-back des Lakers, c'était le premier back-to-back des Lakers de Magic, mais c'était la première fois depuis les Celtics des années 60 qu'une équipe parvenait à garder son titre. Donc c'était vraiment un événement.
Partir du Showtime, sortir du Showtime, c'est bien, c'est pas mal d'en dire un mot quand même, parce que voilà, Laurent, tu le disais, c'est le back-to-back, ça s'est pas fait depuis les années 60. C'est déclinant, mais ça reste quand même le Showtime, ça reste quand même une équipe fantastique à voir jouer.
Bah oui, et puis c'est pour moi, c'est l'équipe des années 80 quand même, les Lakers, même s'il y a eu les Celtics, même s'il y a eu les Pistons sur la fin, mais c'est une équipe extraordinaire. Alex l'a dit, évidemment, Magic, Jabbar, Worthy qui est MVP d'ailleurs de ses finals. Hein. C'est un peu son heure de gloire. Et Pat Riley, évidemment, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Pat Riley, qui était le coach chantre du Showtime à Inglewood, va devenir derrière le coach des Knicks. Qui vont
avoir
un style complètement différent, et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Donc oui, c'est une équipe absolument immense, et c'est le point de bascule, parce que là ils sont tout près de céder face aux Pistons, et derrière effectivement ils vont continuer de dominer la conférence Ouest puisqu'ils seront en finale en 89 puis en 91, mais ils vont se faire quand même dominer assez nettement et par les Pistons et par les Bulls dans ces deux finales qui vont être les deux dernières finales de l'ère Magic. Donc 88, c'est vraiment, ils sont encore au sommet, et après ça va être l'amorce de leur déclin.
Et pour donner l'idée du poids des Lakers, si je ne dis pas de bêtises, en 90 c'est la première fois depuis une décennie qu'ils ne sont pas numéro 1 à l'Ouest.
C'est possible.
Pour dire un peu le poids qu'ils avaient sur les années 90.
Showtime, les Pistons. Derrière il y a une autre grosse équipe qui arrive, et c'est Laurent, tu as choisi de défendre ces finales, les finales de 93 avec les Bulls.
Ouais, alors je vais essayer d'être synthétique parce que je pourrais en parler pendant 3 jours de ces finales et même de ces playoffs. La première raison pour laquelle j'ai choisi ces finales, c'est évidemment pour les finales elles-mêmes, mais aussi parce que pour moi, c'est les playoffs les plus fantastiques de l'histoire de la NBA. C'est l'âge d'or de la NBA. On est à peine moins d'un an après la Dream Team à Barcelone. Et ces playoffs vont être complètement dingues, à commencer par la série des Suns au premier tour, qui vont être menés 2-0. Ils perdent deux fois chez eux contre les Lakers, justement, qui étaient à l'époque vraiment rentrés dans le rang, qui étaient huitième à l'Ouest. Et ils vont s'en sortir 3-2, parce qu'à l'époque, le premier tour se jouait au meilleur des 5 matchs et pas des 7. Et les Suns vont s'en sortir avec une prolongue. C'est le début de la rivalité aussi au premier tour entre les Knicks et les Pacers avec le petit coup de boule de John Starks sur Reggie Miller. Le shoot au buzzer de The Morning pour qualifier les Hornets contre les Celtics. Donc c'est vraiment dès le premier tour, c'était dingue. Et ça va culminer avec les finales de conférence, avec le 4-3 de Phoenix contre Seattle. Et évidemment, la victoire des Bulls contre les Knicks, alors que les Bulls sont menés 2-0, c'est la seule fois sur les 6 titres de Chicago où ils vont compter deux défaites, deux matchs de retard dans une série. Et après, ces finales entre les Suns et les Bulls. Alors, les Bulls sont double tenant du titre, mais pour moi, c'est leur plus belle victoire. Parce qu'ils n'étaient que numéro 3 de la NBA cette année-là, après la saison régulière. Ils étaient derrière New York à l'Est, donc il leur avait fallu déjà battre les Knicks sans l'avantage du terrain. Et ils ont eu exactement la même chose en finale contre les Suns, qui était la meilleure équipe de la saison régulière. Charles Barkley, qui est désigné MVP, ce qui n'avait pas forcément beaucoup plu à Michael Jordan. Les Suns étaient vraiment une très, très, très belle équipe. Je pense que c'est la plus forte opposition que les Bulls ont eue en finale. Et après, il y a plein de raisons. Je disais le choix du cœur et de la raison. Le choix du cœur, parce que voilà, moi, j'ai grandi avec les Bulls. J'en ai parlé la dernière fois dans le podcast qui s'est le plus fort entre LeBron et Jordan. Moi, j'ai été biberonné aux Bulls. Je suis allé à Chicago quand j'avais 10 ans. Et en 86, quand tu vas à Chicago, tu as 10 ans, que tu découvres la NBA, que tu découvres ça, c'est très difficile de ne pas être fan des Bulls et de Jordan. Et ces finales-là... elles sont historiques pour plein de raisons. D'abord, c'est la première fois qu'une équipe qui a l'avantage du terrain perd les deux premiers matchs à domicile. C'était jamais arrivé. Donc, ça tombe sur les Suns, qui, à mon avis, se font bouffer par la trouille dans le premier match. Et dans The Last Dance, d'ailleurs, Barkley explique qu'ils sont beaucoup trop tendus dans le premier match. Dans le deuxième, Barkley est phénoménal et Jordan a quand même le dernier mot. Ils mettent 42 points chacun. 2-0 pour les Bulls, on pense que c'est terminé. Ils ont 3 matchs derrière au Chicago Stadium pour piller l'affaire. Et tout le monde se dit qu'ils vont en gagner au moins 2 et que ça va faire 4-0, au pire 4-1. Il y a ce match 3 avec la triple prolongation remportée par les Suns. Le match 4 avec les 55 points de Jordan. Le match 5 qui, à mon avis, est le moins intéressant de toute la série où les Suns gagnent très logiquement, ils reviennent. Et puis, il va y avoir ce 6e match. Donc là, Chicago mène 3-2. On revient à Phoenix. Phoenix a récupéré l'avantage du terrain puisqu'il leur suffit, entre guillemets, de gagner les deux derniers matchs à domicile comme l'ont fait les Lakers en 88 face aux Pistons pour sacrer. Et sauf qu'évidemment, ça va pas se passer comme ça parce que les Bulls en ont décidé autrement. Mais ce match 6, pour moi, c'est le plus grand match de basket que j'ai jamais vu. Et je conseille notamment le premier quart-temps qui se termine, je crois, 37-30 ou 37-29, quelque chose comme ça. Ça joue à 2000 à l'heure alors que ça défend très dur. C'est pour moi déjà la préfiguration du basket du 21e siècle. On voit notamment beaucoup de shoots à 3 points. D'ailleurs, c'est drôle, dans ce match, les Bulls vont battre le record de panier à 3 points dans un match de finale. Je crois qu'ils en mettent 10, ce qui paraît évidemment ridicule aujourd'hui. Mais c'était, voilà, c'est un match extraordinaire. Les Bulls le dominent pendant 3 quart-temps. Il y a le dernier quart-temps où Phoenix met une pression absolument dingue. Les Bulls mènent de 8 points à l'entame du dernier quart. Et ils ne marquent pas un point pendant 7 minutes. Les Suns repassent devant. Jordan marque les 9 points de Chicago dans ce carton, ce qui est ridicule, jusqu'à la dernière action offensive des Bulls. Phoenix croque un peu la feuille parce qu'ils mènent de 4 points avec la balle à l'entrée de la dernière minute. Ils vont très mal gérer de possession offensive. Et puis derrière, il y a cette dernière séquence où les 5 joueurs des Bulls vont toucher le ballon, et où c'est John Paxson qui va inscrire ce panier à 3 points. Voilà, c'est absolument extraordinaire pour moi que ce soit un joueur comme Paxson, alors que tout le monde attend Jordan, ou à l'extrême rigueur Pépine, mais vraiment Jordan, parce qu'il est Jordan et parce qu'il est tout seul à réussir à marquer des points dans ce quatrième quart-temps. Et Paxson sort ce shoot, et puis derrière il y a le contre d'Horace Grant sur le shoot de la dernière chance pour
de Kevin Johnson.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que Horace Grant, qui avait fait 4 premiers matchs extraordinaires, tant quasiment à 20 points de moyenne, il fait 2 derniers matchs apocalyptiques au plan offensif puisqu'il marque 1 point dans le match 5 et 1 point dans le match 6. Et ce qui est drôle, c'est que dans le match 6, il marque le premier point du match, un lancer franc. Et il fait la dernière, l'action décisive avec le contre sur Johnson. Donc voilà, il y a plein de petites histoires que j'aime.
C'est pas lui qui ressort la balle pour Paxson d'ailleurs.
Absolument. Pour c'est lui voilà, qui fait la passe décisive, tout à fait. Même si c'est Pippen qui fait, à mon avis, le vrai move décisive en mettant
décalage
dans le vent et il décale Grant et derrière c'est fini. Voilà. Donc pour tout ça, c'est pour moi inoubliable et pas loin d'être inégalable.
Quand on en parlait, quand on préparait ce podcast, Alex, t'avais hésité aussi avec ces finales de 93. C'est aussi un énorme souvenir pour toi, j'imagine.
Bah moi déjà, je suis un fan des Suns. Quand j'ai commencé à m'intéresser fortement au basket et à la NBA, c'était un peu les prémices sur Canal+ et tout. Les premières vraies finales que j'ai un peu vécues, pas vraiment en direct, sont celles de 90. De 90, voilà, c'est ça exactement, où les Blazers vont en finale à l'Ouest et se font défoncer par les Pistons dont je viens de parler juste avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'équipe qui m'avait le plus plu dans les résumés qu'on recevait ou les longs résumés, les longs formats qu'on regardait, c'était les Suns à l'époque de Kevin Johnson et Tom Chambers et ce genre de gars. Ouais. Après, évidemment, fan de Jordan, je veux dire, tu peux pas, c'est compliqué. Moi, je suis de la même génération que Laurent. C'est compliqué de pas aimer Jordan quand t'aimes le basket et que t'es à l'adolescence, plus ou moins, tu vois, au début des années 90, ça va être compliqué. Mais par contre, voilà, Barkley, un joueur qui me faisait vraiment kiffer. Et donc, j'ai un très bon pote à moi avec qui je joue au basket en très très haut niveau, hein, départemental. Qui lui était un gros fan des Suns direct, quoi. Il était vraiment fan des Suns, fan de Barkley. Lui, c'était le seul de la bande qui n'était pas pour les Bulls en fait en 93. On regardait là pour le coup, on était un peu plus vieux, donc là on se tapait des matchs. Il y en avait des fois le vendredi soir, donc on s'en est bouffé vraiment quelques-uns en direct. Donc c'est vraiment des finales dont j'ai des souvenirs encore très vifs d'émotions. Tu sais, les premières vraies grosses émotions. Devant du sport en direct, moi je les ai eu en 93 avec les finales NBA et l'OM. Vraiment, c'est mes premières vraies choses. Tu vois les trucs de direct, les trucs que racontait Laurent là, quand tu as la chance de pouvoir Limoges. Être Limoges aussi, tout à fait. J'avais oublié Limoges, mais complètement.
Je suis Limougeau, Alex, attention, je suis Limougeau.
Ah non non, mais je les ai pas oubliés. J'étais devant le match de Michael Young, par exemple. Ouais. Bon, c'est pour une autre finale.
Voilà, on aurait pu en faire plus tard. Hein,
ouais. C'est un autre podcast. Mais ouais, non, carrément. Donc moi, oui, c'est des finales qui me tiennent à cœur particulièrement. Je pense que Charles Barkley cette année-là, il fait partie des monstres sans bague qui est peut-être pas. C'est peut-être lui parmi tous les monstres sans bague. C'est peut-être lui qui est passé le plus près en fait. Franchement. Michael Jordan, franchement, j'ai jamais vu un mec aussi injouable en finale NBA.
41 points de moyenne.
C'est impossible. Et les rebonds et les passes d'aise. C'est des stats. C'est impossible, comme tu l'as très bien dit, Laurent. Genre, même quand les Bulls sont au fond et que les Suns, qui n'étaient pas une équipe si bonne défensivement, mais faisaient l'effort, l'autre, il arrivait quand même à marquer. Il arrivait quand même à tenir son équipe la tête hors de l'eau et tout. Alors que Barkley était incroyable, Kevin Johnson est pas au meilleur de sa forme dans ces finales-là.
Les deux premiers matchs, il tourne à 7 points et 2,5 passes. Et après, il va quand même se mettre dedans. Ça. Et c'est lui qui. C'est quand Johnson se met à. En fait, pendant deux matchs, il va s'entêter, il va essayer de pénétrer systématiquement et d'aller au cercle.
Ils étaient prêts à ça, les Bulls, en plus.
Exactement. Et à partir du match 3, j'ai revu le match 3 il y a quelques jours. Il s'arrête en fait et hop, il shoot des petits flotteurs à 3 mètres. Et là, il met 25 points. Et vraiment, le fait que Johnson rentre dans sa finale, ça va complètement changer. Il faut le remercier parce que sinon, je pense que ça se terminait à 4-0. Et puis, il y a peut-être eu aussi les Bulls qui se sont cru un petit peu arriver, je pense, après avoir gagné les deux premiers matchs à Phoenix. C'est probable aussi, même inconsciemment. Donc, ça a failli être des finales. Pas du tout intéressante et au final elles sont cultes. Et je voudrais juste avant d'arrêter de parler dire un petit mot. J'étais fan des Bulls, j'étais fan de Jordan, mais pas que. J'aimais tout le monde dans cette équipe, évidemment Pippen, Mike Fratello qui était consultant sur NBC à l'époque et qui disait quand vous avez une superstar dans une équipe, vous avez beaucoup de chance. Les Bulls, ils en avaient deux. Ils avaient Jordan et ils avaient Pippen. Deux joueurs de ce calibre-là, c'était rarissime. Et derrière, ce qui est frappant, c'est que chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Vijay Armstrong avait beaucoup progressé, John Paxson, Horace Grant, évidemment, et même leurs pivots, Cartwright, Scott Williams, Stacy King,
mais complètement.
Qui n'étaient pas des super joueurs, mais qui étaient des bons passeurs, qui avaient des bonnes mains, et vraiment qui, surtout, étaient parfaitement intégrés dans ce collectif en sachant exactement à l'instant T ce qu'ils devaient faire. Donc, pour moi, on n'était pas loin de l'équipe parfaite, même s'il n'y a pas 5 All-Stars, et on ne peut pas avoir 5 Jordan ou 5 Pippen dans une équipe. Mais chacun était vraiment à sa place, et le symbole de tout ça, c'est évidemment le panier victorieux de Paxson.
C'est final, en plus, pour moi. Alors moi, je suis pareil, c'est les deuxièmes finales que j'ai suivies en direct, et ils ont un côté iconique, par Jordan, évidemment, tout son apport culturel, par les Suns, leur maillot. C'était leur première année avec ce nouveau maillot, je le trouvais complètement dingue. C'est des joueurs, il y a Richard Dumas, Oliver Miller, tous ces mecs-là.
Richard Dumas, il n'a jamais rien fait d'autre que
ça. Il fait un match, à part sniffer un peu. Et ce match 5, il fait un super match 5 de mémoire à Chicago. Et je me souviens qu'à l'époque, à Chicago, la ville était un peu soulagée que les Bulls ne gagnent pas le titre dans la ville parce que ça aurait été le bordel absolu.
C'était les émeutes à chaque fois, ouais.
Ouais, voilà. Et là, tu parlais tout à l'heure du. Alors, je suis embêté parce que j'aurais aussi pu citer ces finales-là, parce que, encore une fois, pour le côté iconique, toute la couleur qu'il y a dans ces finales, parliez de Jordan implacable. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est implacable et 41 points de moyenne. Et ce match 4 où il met 55 points, déjà plus de 50 points, c'était plus arrivé jusqu'à LeBron en 2018, je crois. Le match, il est serré jusqu'au bout. C'est pas seulement le show Jordan, c'est-à-dire que jusqu'au bout, il a beau faire un show. Les Suns se sont là. Donc il y a vraiment, comme tu disais Laurent, il y a tout dans ces finales, et tu parlais du match 3. Bah, pareil, ces souvenirs d'ado. Le match a duré tellement tard, je me souviens que je me suis pas recouché, je suis parti au collège directement derrière.
Ouais, alors toi, tu étais au collège, mais ouais. Dis-toi que moi je passais mon bac cette année-là.
Ah
ouais.
Et
j'espère que mes parents n'écoutent pas, parce que le fameux match 6, j'avais un oral du bac le matin. Et voilà, quand les Suns remontent dans le quatrième carton, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je vais me coucher ou pas? Et je dis, non, c'est pas possible, je reste. Et voilà, j'étais tellement excité, tellement que j'ai pas pu dormir. Donc, je suis allé quand même passer un oral du bac après une nuit blanche. Voilà.
J'ai mon bac, papa. Tout s'est bien passé, ce que je veux dire. Tu as dit, mes parents ne savent toujours pas, je pense que je me levais la nuit pour regarder.
C'est le moment de le dire, c'est le moment de faire des confessions.
C'est confession intime.
Il n'y a pas prescription, je pense que c'est bon.
C'est beau, ça vous parlait de ces équipes, des Bulls, des grandes stars. Il y en a d'autres grandes stars qui sont arrivées après. On parle de LeBron James, on parle de Stephen Curry. On va parler des finales de 2015 que Maxime, tu veux défendre. C'était les Cavs contre les Warriors. En quoi elles t'ont marqué, celles-ci?
Ben, en fait, j'étais embêté au moment de faire le choix, pour être tout à fait honnête. Au début, j'avais envie de mettre 1994. Entre New York et Houston, parce que j'aime vraiment, vraiment le sale. J'aime bien quand un panier a une valeur absolue. C'est quasiment un but de marquer un panier, voilà, pour moi. Et il y avait Olajuwon, un joueur que j'adore par-dessus tout. Après, je me suis dit, non, peut-être pas jusque-là. J'ai pensé à 2013, parce qu'il y a le shoot de Tipeee, il y a le shoot de Ray Allen. Cette image iconique de Duncan qui frappe le parquet de frustration, 7 matchs, c'est assez fabuleux. Je me suis dit 2014, parce que les Spurs, parce que c'est la seule fois que j'ai vu une équipe de basket jouer un peu comme une équipe de foot. C'était le Barça, cette équipe... des Spurs dans le jeu de passe exceptionnel, dans la démonstration. Et puis non, je me suis dit, je vais prendre 2015. Pourquoi? Parce que en 2015, j'ai vibré comme rarement devant des finales NBA sur les deux dernières décennies. Pour moi, il y a vraiment tout dans ces finales NBA. À l'arrivée, on est d'accord sur le scénario, c'est pas un sommet de jeu, mais il y a tout ce que j'aime, moi. Regarde, déjà, il y a le symbole, LeBron James qui enfin quitte Miami, revient dans sa ville pour gagner tout le symbole qu'il y a derrière ça. Il y a les Warriors, dynastie naissante, et le symbole de LeBron qui se retrouve tout seul à cause des blessures. Lui qui avait créé un monstre à trois têtes à Miami se retrouve tout seul contre une équipe absolue où il y a très très peu de points faibles qui sont les Golden State Warriors. J'aime bien aussi la rivalité un peu sourde qui naît entre Curry et LeBron. On n'en parle pas beaucoup de cette rivalité, mais les deux, on sent que LeBron est un peu agacé par Curry, parce que LeBron, c'est le prototype de la révolution NBA des années 2000, le joueur multi-poste, multitâche. Et de l'autre côté, il y a ce gringalet d'un mètre 90, 92, qui avait des problèmes aux chevilles au début de sa carrière et qui shoot à trois points comme personne et qui est en train un peu de lui manger dans la main et de prendre le dessus, notamment au niveau des ventes de maillots. Et il y a tout ça. Et ce que j'aime bien, voilà, pour vous dire ce que j'ai adoré, c'est l'intensité défensive de ces finales. Parce que moi, j'aime bien, encore une fois, quand ça défend. Le jeu de transition, c'est pas ma cam. Pour moi, il faut vraiment que ça défende sur demi-terrain. Et je trouve que c'est ce que j'ai vu de mieux depuis. Justement, je parlais de New York-Houston. C'est vraiment ce que j'ai vu de mieux. Et puis surtout, Encore une fois, la symbolique, imaginez que LeBron James, il se retrouve sans Kevin Love qui s'est blessé au premier tour avec la clé de bras de Kelly Olynyk. Il perd Kyrie Irving au match 1. Et je vais vous donner, j'ai noté quand même le roster qui est avec lui pendant ces finales-là. Il y a Mozgov, J.R. Smith, Thompson, Della Vedova, Schumper, Mike Miller, Kendrick Perkins, Joe Harris. Voilà. Et il va tenir tête à la formidable armada que sont les Warriors. Il va perdre 6 matchs, c'est certain. Mais les stats de LeBron James, c'est quand même 35,8, 13,3 bons et 8,8 passes. L'image que j'ai de ces finales, s'il n'y a qu'un match à retenir de, ce match, de ces finales, c'est le match 3. Parce que là, le ballon est une patate chaude quand Cleveland l'a en main. On le donne à LeBron James et c'est à lui de se débrouiller pendant 48 minutes. Je ne dois pas jouer les 48 minutes, un tout petit peu moins, à peine. Mais c'est lui qui tient Cleveland. Et c'est complètement dingue parce que, encore une fois, face à lui, il y a une équipe qui est hyper complète, Klay Thompson, Iguodala, pardon, qui sera élu MVP des finales, Draymond Green, Curry, on ne les présente plus. Et il y a toute cette symbolique, encore une fois, de joueurs qui tient jusqu'au bout. Et ce que j'aime bien aussi, accessoirement, dans ces finales, c'est que pour moi, c'est des finales d'une ère révolue aussi. C'est-à-dire, on parlait des Pistons tout à l'heure, bah, où ça défend encore un peu. Ce n'est pas encore les concours à trois points. Évidemment, Golden State a bâti aussi son succès là-dessus. Mais ce n'est pas des poulets sans tête, les Warriors. On ne joue pas à trois points dans tous les sens. Et n'empêche qu'il y a ce côté, encore une fois, opposition de style. Et évidemment, ce match 3 avec Della Vedova, c'est 20 points. Les crampes, enfin, il y a tout.
Rappelle-nous le scénario.
Oh bah, le du match 3 ?
Non, le scénario des finales.
Oh bah, ça fait très classique, 1-1 en partant de Cleveland, de Golden State, qui est déjà pas mal. 2-1 pour Cleveland. Cleveland mène 2-1. Et à ce moment-là, on se dit, à cette bascule-là, on se dit, il va réussir à le faire. Enfin, c'est complètement dingue ce qu'il est en train de réussir. Encore une fois, là, il le joue tout seul. Il n'y a pas de Pippen, il n'y a pas de lieutenant. Il est en train de faire un truc complètement dingue. Puis finalement, au fur et à mesure, la force collective des Warriors va prendre le dessus. Ce n'est pas des grandes finales, encore une fois, au niveau du spectacle, mais moi, ce que je retiens, ce que j'ai aimé et ce que je peux avoir dessus, c'est l'intensité et l'émotion. Et j'aime bien ce côté un peu, ça fait bizarre de dire ça pour LeBron, petit pousset, mais là, c'était ça, c'était le type qui avait pris tout le monde sur son dos. Et c'est formidable, d'ailleurs, qu'il ait gagné l'année d'après, même si là, pour le coup, il a bien été aidé, évidemment, par Irving. C'est-à-dire qu'il en ait quand même gagné une avec Cleveland, parce que ça aurait été pour moi un véritable crève-cœur. Sur 4 finales, il n'en gagne pas une.
Messieurs, ces finales, c'est entre les Cavs et les Warriors, c'est celle-ci aussi que vous retenez, 2015 ?
Ça s'appelle 2016, naturellement.
Ouais, c'est ça, mais je pense que je comprends très bien pourquoi Maxime a choisi celle-là. Et moi qui, honnêtement, suis quand même assez, enfin, je ne veux pas être caricatural, mais assez peu fan du jeu NBA tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, je trouve que dans les années 2010, on a quand même été vernis au niveau des finales. Il y a eu vraiment des très, très grandes finales et avec des caractéristiques très, très différentes. Que ce soit les Spurs, c'est vrai que moi aussi, j'avais adoré leur démonstration collective en 2014. Pour moi, c'est le collectif suprême et peut-être le dernier très grand collectif de la NBA en attendant le prochain, mais en tout cas à ce jour. Ce qu'ont fait les Spurs de Popovich et 2014 a été vraiment le point final et le bouquet final de tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été un immense fan de LeBron James, donc on va pas refaire le débat, même si j'ai énormément de respect pour lui. Mais c'est vrai que ce qu'il a fait pendant ces finales-là, oui, là, tu es obligé de lui tirer un énorme coup de chapeau. Et j'ai presque plus de respect pour lui après ces finales-là qu'après certains de ses titres.
Voilà, moi, c'est ça que j'aime. Je crois que, j'ai pas noté, mais je crois qu'à la mi-temps du match 5, il est à 20-8-8. Quelque chose comme ça, je crois. Ce qui est complètement aberrant. Et moi, j'aime bien, je l'ai déjà dit ici, j'aimais bien LeBron James dans la défaite. Je trouve qu'il a quelque chose, c'est Sisyphe qui pousse son rocher tout le temps. C'est-à-dire qu'il il se remet sur l'ouvrage et il y va toujours, toujours, toujours. Et ça va être marrant d'ailleurs à la fin de sa carrière de voir combien il aura perdu sûrement plus de finales, a priori, qu'il en a gagné. Mais à l'arrivée, moi, ça ne gâche rien à l'impression que j'ai eue de lui, parce qu'encore une fois, ces 4 finales avec Cleveland de suite, je les trouve formidables, parce que c'est le contre-pied absolu de ce qu'il avait construit avec Miami un peu artificiellement. Là, il a essayé de le construire un peu différemment. Il a toujours poussé ça. Alors évidemment, s'il y avait des finales à retenir, c'est évidemment celle de 2016, parce qu'il revient de 3-1 à victoire 4-3. Évidemment, il y a ce match 7, où à une minute de la fin, je crois que les deux équipes sont à 691 points partout. Ça aussi, ça en dit long de l'égalité qu'il y avait tout au long de cette série, qui est formidable. Mais j'ai toujours ce côté, j'ai préféré 2015 parce que ça défendait à mes yeux beaucoup plus et qu'il y avait ce côté un peu sale, un peu hargneux. Parce que, pour revenir aux Pistons, Moi, je suis, entre guillemets, né basketballistiquement un tout petit peu après. Et je ne les ai pas vus en direct, donc j'ai un peu regretté après coup d'avoir raté ces coups bas et ces coups de coude.
Alex, ça t'a marqué aussi ces finales 2015?
Ouais, bah moi je suis un énorme fan de LeBron James, hein. J'assume. Hein. Je suis un énorme fan, je trouve que sa carrière est hallucinante. Elle n'est pas finie d'ailleurs, hein. Enfin, on va voir ce que nous réserve la NBA dans les prochaines semaines et les prochaines années. Les finales de 2015, ouais, clairement, il y a vraiment un truc, comme le dit Maxime, il y a vraiment un côté genre... Le gars, il a emmené quoi comme équipe? Genre, j'aurais pu être dans le roster, en fait, moi.
Avec il y avait des places.
Avec ton niveau départemental, ça bah, passe.
Non, mais tu vois, genre, on se cale dans un coin, on essaie de mettre un 3 points de temps en temps, et en fait, ça fait le taf. C'est un homme équipe. C'est un homme équipe en 2015, LeBron James. Après, évidemment, on a envie de parler de 2016, qui a ce contre incroyable. C'est un Game 7. Je crois qu'il a un triple-double en Game 7. Hein. Moi, j'ai pris les finales. Le 88 avec James Worthy qui cale un triple-double énorme, mais il faut regarder les stats de LeBron sur les finales de 2016, c'est un truc de grand malade mental. Je sais pas si c'est maintenant, moi je pense que effectivement 2015 tient bien la corde dans les quatre finales Cavs-Warriors. Il faut pas non plus négliger, même si en termes de scénario elles sont beaucoup moins intéressantes, celles qui se sont jouées face à Kevin Durant, parce qu'il y a quelque chose dans ces finales qui nous a tous énervés, qu'en même temps on reverra peut-être jamais. Dans l'histoire du basket, c'est une équipe imbattable, complètement imbattable, parce que à chaque fois que Cleveland y a cru, Stephen Curry et surtout Kevin Durant sont venus mettre des paniers, genre assassins.
Les deux matchs 3.
Genre, plein, les deux matchs 3, Kevin Durant, à chaque fois, il monte la balle, genre, mais c'est tellement plein d'insolence, quoi, c'est horrible pour l'équipe d'en face. Donc, non, 2015, c'est un bon choix. Je croyais que tu allais nous parler plus de la défense de Della Vedova sur Irving, sur Curry quand même.
Oui, j'aurais pu aussi, voilà, tout simplement. Mais j'aime bien, encore une fois, Della Vedova, c'est le mec qui a, je vais être méchant, qui a pas de talent. On a du talent quand on joue NBA, c'est faux, mais.
Ça va, ouais.
Il y a rien à côté de Curry, il est tout petit, mais n'empêche que ce soir-là, il va s'y mettre. Curry qui fait pas des grosses finales d'ailleurs. Et qui va se taper le cul par terre et le bloquer. Et il termine, je me souviens qu'il va à l'hôpital, il a des crampes, il est déshydraté complètement. Imaginez quand même l'effort qu'il faut faire au niveau basket pour en être à déshydrater, avoir des crampes, alors que c'est un sport finalement qui joue tous les deux jours. On a l'impression qu'on peut jouer en back-to-back. Bah, lui, il s'est mis dans cet état-là. Et je trouve qu'il y a ce dépassement de soi qui est formidable. Et là, tu parlais des deux dernières finales, 2017-2018. J'ai toujours l'impression que c'était jamais très loin, finalement. On a l'impression qu'ils sont imbattables, mais à chaque fois de me dire, non, mais c'est pas possible, encore une fois, il y a eu deux matchs 3. Il y a évidemment le match 1 avec J.R. Smith qui ressort le ballon sur le enfin, je crois que j'aurais pu péter ma télé. C'est...
Mais même George Hill, hein, qui n'est pas assez lancé, hein. Il n'est pas aidé, les bronzes.
Et c'est ça, voilà. S'il y avait à retenir quelque chose, c'est aussi l'image qu'on a vue sur Internet après où LeBron regarde de côté J.R. Smith, qui ne comprend pas, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien compris. Et c'est fantastique parce que voilà, ça résume bien ce qu'il a réussi à faire à Cleveland. Les amener en finale NBA, ce n'était pas toujours le plus difficile parce qu'à l'Est, il y avait parfois des petits trous, on va dire. Mais de tenir tête face aux Warriors. Et je maintiens que sur les deux dernières finales, c'est un tout petit peu plus serré que le score le laisse.
Est-ce que le score revient bien? Ouais, je suis d'accord.
Super, messieurs. J'ai l'impression qu'on a été complet sur ces finales. Alors,
Espérons juste qu'on en aura une au mois d'octobre, non?
Espérons qu'on aura qu'on aura effectivement cette finale qui jouera. On verra qui succédera aux Raptors. Messieurs, merci pour ce podcast. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes, Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud et j'en oublie. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, à nous mettre des commentaires également pour que on remonte dans les classements. Merci Maxime, merci Laurent, merci Alex.
Merci les gars.
Hashtag Talk. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Qui c'est le plus fort. Salut les gars.
À bientôt.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.